L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Et vous recevez ce matin la présidente d'honneur du WWF France qui termine un séjour d'une semaine en Nouvelle-Calédonie.
Oui, Isabelle Autissier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour redresser une sorte de bilan de votre voyage en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes une femme aux multiples talents et engagements. Tout le monde connaît votre carrière et votre parcours. Vous êtes rendue célèbre grâce à la navigation et à vos exploits en mer. Et depuis, vous militez aussi beaucoup pour la préservation de l'environnement, engagée au WWF depuis 2009. C'est bien.
Depuis même avant, mais j'ai été présidente à partir de 2009.
Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes venue en Nouvelle-Calédonie pour, en quelque sorte, voir un peu le travail du WWF accompli depuis 14 ans, depuis votre dernier voyage, c'est bien ça ?
Exactement. Quand j'avais accédé à la présidence, j'étais venue ici, j'avais rencontré déjà le bureau qui existait, les actions. Je me souviens d'être allée au Wentoro, d'être montée à la Montagne des Sources, d'être allée à Guapin. Et puis c'est vrai que je voulais, 14 ans après, revenir en quelque sorte sur mes pas, comme à Guapin par exemple, ou au Wentoro. Et ça, c'est vraiment sympa parce que les choses ont avancé.
Alors justement, les choses ont avancé de quelle façon ? Est-ce que vous avez l'impression que les actions menées par le WWF et plus généralement la préservation de l'environnement progresse, y compris en Nouvelle-Calédonie ?
Alors, ça progresse, oui, évidemment pas assez vite à la hauteur des enjeux, puisque vous êtes une terre incroyable en termes de biodiversité. Hein. Quand on arrive de métropole, on voit que des plantes qu'on ne connaît pas, que des poissons qu'on ne connaît pas, dont on sait que certains n'existent que ici. Donc, c'est un enjeu considérable. Alors oui, il y a des choses qui se font, et ça porte ses fruits. Je parlais du Wentoro. Quand j'y étais allé il y a 14 ans, j'avais transpiré comme pas possible pour monter, parce qu'il y avait des tout petits plants minuscules, des petits arbres qui faisaient 20 cm de haut. Aujourd'hui, on circule dans des grands arbres avec une biodiversité exceptionnelle. Donc, c'est possible. C'est possible dès qu'on ouvre un peu pour la nature, elle peut reprendre ses droits. Maintenant, il y a encore énormément de sujets, que ce soit dans le lagon, que ce soit avec les feux, puisque c'est malheureusement encore un drame pour la Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est, je crois, des dizaines de milliers d'hectares par an. Donc il y a encore beaucoup de travail, bien sûr.
Est-ce que les initiatives de proximité sont des choses importantes, même si elles ne rayonnent pas forcément à grande échelle, mais est-ce que c'est important dans l'appropriation, finalement, que les gens ont de cette question de l'environnement ?
Bien sûr. De toute façon, ces questions environnementales, elles sont au cœur de la vie. Donc, elles sont tous les jours, dans tout ce qu'on fait, la façon dont on se nourrit, la façon dont on se déplace, la façon... Voilà. Donc, c'est forcément une appropriation... Le paysage qu'on a autour de soi, donc c'est forcément une appropriation. Et on ne fait pas des questions environnementales, des choses qui arrivent d'en haut, qui seraient en dehors, à côté, ou encore pire, contre les gens. C'est bien parce que tout le monde s'en saisit, que ces actions fonctionnent, et qu'elles apportent un réel bénéfice, que les gens sentent le bénéfice que ça leur apporte. Et au WWF, on est très, très sensible à ça. On fait les choses avec la population.
Est-ce que le WWF participe aussi aux grands rendez-vous internationaux hein, sur le climat ? On pense à la COP. Vous pensez que vous avez une action déterminante dans ces instances-là ? C'était le cas pour la COP en France ?
Oui, alors on y est, bien sûr, puisqu'on est une organisation mondiale, on est présent dans un pays sur deux, donc on a une responsabilité mondiale et on participe à ces grandes messes, entre guillemets, internationales, depuis le début, pour porter des sujets. L'avantage, c'est qu'on peut les porter au niveau de l'ONU, mais on peut les porter dans les 100 pays dans lesquels on est, donc ça nous donne quand même une force de frappe. Et puis après, on essaye toujours de cranter le maximum. Il ne faut pas attendre de ces grands rendez-vous que ce soit des coups de baguette magique, mais quand même, ça oblige les États, mais quand même, ça permet de cranter un certain nombre de choses, donc ce n'est pas inutile.
Aujourd'hui, vous sentez, on entend se développer parfois, en tout cas sur le réchauffement climatique, un certain nombre d'oppositions où on parle de climato-sceptiques. Aujourd'hui, vous avez envie de les convaincre, ces gens-là, ou vous pensez que ce n'est pas la peine ?
Écoutez, regardez la vie de tous les jours. Regardez, parler avec votre papa ou pour certains avec leurs grands-parents, comment les choses ont évolué. Enfin, on voit bien les inondations devenues catastrophiques, les sécheresses d'un autre côté, tous ces dérèglements qui sont exactement le résultat du dérèglement climatique. Alors après, il y a des gens qui, par intérêt ou peut-être par ignorance, voire par bêtise, se cramponnent au fait que non, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est évident, je veux dire. Plus personne aujourd'hui, scientifiquement, ne peut contester qu'il y a un dérèglement climatique qui est dû à l'action de l'homme. Et j'allais dire tant mieux, parce que ça permet aux hommes d'agir. Si ça ne dépendait pas de nous, on ne pourrait rien faire.
Alors justement, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ces questions-là. Est-ce que vous pensez que des solutions existent et qu'il est encore temps d'inverser la tendance ?
Alors, il est toujours
parce que
temps.
Certaines personnes sont désespérées presque, on le sent, ça pèse même sur leur morale.
Bien sûr. Alors moi, je vais dire à ces gens-là, battez-vous. Battez-vous, déjà, ça fait du bien à la tête, parce qu'on est avec d'autres gens, on a des objectifs, on est actif pour son avenir. L'avenir, il n'est pas écrit. Il n'y a rien qui est écrit. C'est ce que nous allons faire qui va écrire l'avenir. Et le dixième de degré va compter. Le centième de degré va compter. Il va déterminer des changements, peut-être des changements énormes. Regardez, l'eau, elle gèle à zéro degré. Donc, il suffit d'un centième de degré pour que l'eau, elle gèle ou qu'elle ne gèle pas. Donc, voilà. Donc, ça va être déterminant. Il faut vraiment... C'est un combat. C'est le combat du siècle. C'est le combat pour l'avenir de nos enfants. C'est le combat pour notre avenir à nous. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, on sera peut-être encore là, enfin je l'espère. Donc il faut absolument se cramponner à ça, il faut le faire ensemble, ça évite de se désespérer.
Alors ce combat, vous le menez de multiples façons, de par vos engagements au sein du WWF, et puis vous avez aussi pris la plume il y a quelques années pour écrire des romans, vous venez de sortir une bande dessinée, c'est une autre façon de s'engager, de faire passer un certain nombre de messages ?
Oui, c'est une façon qui est peut-être plus ludique, la BD c'est un art extrêmement populaire qui parle à tout le monde, ça c'est une BD qui est on va dire plutôt pour les adultes, mais qu'on peut lire à partir d'une quinzaine d'années. Et le fait de parler des choses, parler des sujets, puisque celle-là est sur l'océan, qui sont quand même des sujets assez graves, parce que l'océan va pas bien. Mais il y a des solutions. Là aussi, il y a des solutions. On voit bien que quand on laisse un peu de place à la nature, tout d'un coup, elle reprend ses droits, là aussi. D'en parler avec humour, ça permet quand même, justement, de pas se désespérer.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait peut-être important ou urgent le sujet par rapport aux océans sur lesquels se pencher? On parle beaucoup, par exemple, d'un certain nombre de choses qui pourraient aider dans la pharmacie ou la pharmacopée. Quelles sont les urgences pour respecter l'océan et en même temps, pardonnez-moi l'expression parce qu'elle va vous choquer, mais vous la comprendrez, s'en servir d'une certaine façon.
Oui, mais s'en servir, c'est pas une honte. C'est pas une honte de manger du poisson. Faut pas en manger trop parce que quand on en mange trop, c'est de la surpêche et au bout d'un moment, y a plus rien pour personne. Après, la pharmacopée, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, et je voudrais saluer quand même la Nouvelle-Calédonie qui a fait le moratoire sur le ce qu'on appelle le deep sea mining, hein, c'est-à-dire aller chercher dans les profondeurs des océans, je ne sais quoi, de miracle.
Mais ça interdit aussi la recherche.
Ça interdit pas la connaissance. Mais par contre, ça interdit la prospection en vue d'aller éventuellement après exploiter. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Ne commençons pas à détruire des ressources, peut-être, vous l'avez dit, peut-être une molécule qui va nous aider dans telle ou telle maladie, la palette des choses que la nature, entre guillemets, a inventées est gigantesque. Ne tirons pas contre notre camp, protégeons cette nature, protégeons toutes ces espèces, et vous en avez tant ici, qui sont des espèces rares, qui sont des espèces tout à fait endémiques à la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire si elles disparaissent d'ici, elles disparaissent de la planète. Peut-être que dans une de ces espèces, si on l'étudie, on va trouver quelque chose qui va nous intéresser. Pourquoi pas ? Mais de toute façon, la question, c'est comment est-ce qu'on protège l'ensemble des écosystèmes, c'est-à-dire la liaison entre toutes ces espèces, et dans ces espèces, je compte aussi l'homme.
Comment vous allez poursuivre ce combat dans les années qui viennent, Isabelle Autissier, toujours au service du WWF ou dans d'autres causes ?
Alors, le WWF a ça de bien, c'est qu'il agit sur à peu près tous les sujets. Hein, donc, j'allais dire, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, moi, je suis plus attachée au sujet maritime, bien sûr, mais pas que. Hein, quand je m'intéresse au feu en Nouvelle-Calédonie, ça peut impacter, parce qu'au final, quand il y a des feux, la terre finit dans le lagon et elle impacte le lagon. Mais oui, je vais rester évidemment fidèle à cette organisation que j'aime bien parce qu'elle est basée sur la science. On n'est pas idéologue. On parle des choses qui sont. Et puis on essaye d'avoir des solutions à chaque fois. L'idée n'est pas de désespérer tout le monde en disant tout va mal. Oui, les choses vont mal, mais à chaque fois, il y a des solutions.
Alors vous avez aussi pris la plume, je le disais, il y a quelques années pour écrire des romans. Certains sont liés à la mer, mais pas tous, ou pas en tout cas directement. C'est aussi des portraits de femmes que vous avez essayé de mettre en valeur. C'est quoi ? C'est le fruit d'expérience, ce passage à l'écriture du roman ? Quand on navigue à votre niveau, on est très préoccupé évidemment par la marche de son bateau, mais il y a un petit côté aussi méditation, ou en tout cas réflexion quand on est en mer. C'est tout ça qui ressort aujourd'hui ?
Oui, puis c'est un peu ma boîte à trésors que j'ouvre petit à petit, parce que moi j'ai eu cette chance sur les océans et un peu partout de voir ces choses merveilleuses.
On contemple aussi, même quand on fait une course en mer ?
Oui, bien sûr. Et ce rapport de l'être humain avec la nature, c'est extraordinaire. Quand on est seul sur l'eau, qu'on voit passer une troupe de dauphins, une baleine ou un albatros, on se sent appartenir à la planète. Donc voilà, donc j'ai plein de belles images. Je profite de mes romans pour les réutiliser, entre guillemets, et faire en sorte que, du coup, les gens puissent se projeter aussi dans ces réalités.
Vous profitez aussi de vos voyages pour rester un peu en mer. Je crois que vous avez navigué en Nouvelle-Calédonie. Ça reste une passion qui ne vous lâchera jamais, bien évidemment.
Non, il en faudrait beaucoup pour m'empêcher de naviguer. J'ai eu la chance, oui, d'aller et aux îles Loyauté et dans le sud de la Grande Terre, là, pendant un peu plus de 2 semaines. Et c'était vraiment un régal.
On n'attendra pas 14 ans pour vous revoir en Calédonie, Isabelle Autissier ?
J'espère bien.
Bon, rendez-vous est pris alors pour la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas d'être passé par nos studios.
Merci à vous.